le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver ce matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Aujourd'hui, nous accueillons Brice Desmier, pasteur de l'Église protestante unie de France. Il est aumônier national des prisons à la Fédération protestante de France. Les grandes religions ont prétention à l'universel. Mais l'universel n'a pas bonne presse. Ne confondons-nous pas universel et uniformisation avec la mondialisation? Dans le judéo-christianisme, parler d'universel n'empêche pas l'individu de se développer. Dans le monde judéo-chrétien, l'affirmation de l'universel ne gomme pas l'individu. Ce matin, le pasteur Brice Desmier nous conduit sur ce chemin.
Oui, donc ce matin, je voudrais aborder en effet la question de l'universel. L'homme singulier que nous sommes, a-t-il, peut-il, veut-il avoir part à l'universel, ou n'est-ce que l'illusion qu'a entretenue à la fois la philosophie et la théologie depuis des siècles? Avons-nous plus de chances d'être heureux si nous goûtons à l'universel, ou bien l'ancrage dans le local doit-il suffire à construire notre identité? Universel, ce qui est tourné vers l'un, c'est le sens littéral de ce mot latin. Le mot grec est « catholicos », c'est-à-dire littéralement « ce qui se rapporte au tout ». Il est donc question de l'un et du tout, par opposition au multiple et au particulier. L'universel, c'est ce qui vaut pour tous. Le singulier, c'est ce qui vaut pour un seul et unique. Reconnaissons l'ambivalence de la notion d'universel aujourd'hui. D'un côté, on vient de fêter le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et de l'autre, se dressent à nouveau des murs et des frontières qu'on aurait cru, il n'y a pas si longtemps, relégués au musée des passions funestes. Le concept d'universel a du plomb dans l'aile, car il est assimilé souvent aux possédants, aux dirigeants de tous bords. Il rime avec globalisation, mondialisation, totalisation, voire pour certains, totalitarisme. L'universel serait du côté du libéralisme débridé, celui qui laisse tant de femmes et d'hommes sur le bas-côté de la croissance et du progrès économique. Laissez faire, disent-ils. Ne confondez pas les aléas malheureux de l'histoire avec l'histoire avec un grand H qui se construit au-delà des passions et des errements singuliers. Ce serait donc, si nous devions résumer, un combat entre l'homme abstrait et l'homme singulier. Serait-il aujourd'hui inconvenant de demander à l'homme de déshabiter l'immédiat où il est engagé? C'est ici et maintenant qui fait son adhérence pour contempler la réalité différemment? Déjà, un homme comme Joseph de Maistre, en 1753, dans son ouvrage « Considération pour la France », combattait l'idée de l'homme qu'avait la philosophie des Lumières. J'ai connu des Allemands, j'ai connu des Français, j'ai connu des hommes anglais. Je n'ai jamais rencontré l'homme, écrit-il. Il n'a jamais rencontré l'homme abstrait, désincarné. Où se cache cette créature fantasmée, cet homme libre et égal à tous les semblables, porteur de droits inaliénables et sacrés? Bon, il est vrai que Joseph de Maistre ne croyait pas beaucoup au suffrage universel et à la démocratie portée par l'humanisme des Lumières. Mais on peut aussi aller voir du côté de Karl Marx, où l'on trouve une critique virulente de la Déclaration des droits de l'homme. Marx dit que les droits de l'homme sont une imposture, parce que les droits de l'homme, on entend homme, mais cet homme, c'est le bourgeois qui fait croire aux sans-culottes que l'homme est venu au pouvoir, alors que c'est un homme particulier qui y arrive, le bourgeois. Pour de Maistre, l'homme est fondamentalement homme par sa nationalité et pour Marx, par sa classe sociale, qu'elle soit prolétaire, bourgeoise, royaliste. François Julien, philosophe contemporain, dans son ouvrage « De l'universel », veut également montrer que les droits de l'homme, qui ont inspiré le droit international, gardent la marque de la culture européenne qui les ont vus naître. Les pays non occidentaux résistent, dit-il, à cette conception de l'individualisme juridique. François Julien ne rejette évidemment pas la question des valeurs universelles qui sont portées par les droits de l'homme, mais écrit-il, il faut articuler la singularité de leur avènement et le caractère absolu de leur exigence. Devons-nous nous résoudre à la défection de l'universel pour laisser émerger l'affirmation du singulier? Ou bien l'universel, ou bien le singulier? Est-ce vraiment cela à quoi nous sommes réduits? À une irréductible opposition? Les religions, et principalement les religions monothéistes, sont aussi accusées d'universalisme dangereux, voulant l'avènement d'un homme auquel on a retranché de ce qu'il pense tout le singulier, de concevoir l'homme d'abord selon le tout, de ne plus voir les hommes que du point de vue du tout, de l'absolu divin. Et si les choses étaient plus compliquées? Et si la notion d'universel n'était pas que l'insipide abstraction totalisante que certains voudraient nous faire croire, même si parfois nous avons le sentiment que le monde actuel tient l'individu pour quantité négligeable? Tout d'abord, ne nous trompons pas d'universel. L'universel n'est pas l'extension à l'infini de l'un qui ne serait alors qu'une répétition stérile. L'universel n'est pas synonyme d'uniformisation. Bruno Latour, dans son petit ouvrage « Où atterrir ?», pose très bien la question de la mondialisation qui ne prend pas assez en compte le singulier. Penser d'un point de vue global ou mondial, cela devrait signifier qu'on multiplie les points de vue. Or, il semble que l'on entende aujourd'hui par « mondialiser » l'exact contraire d'un tel accroissement. En fait, dit-il, ce sont quelques personnes qui représentent un tout petit nombre d'intérêts qui cherchent à s'imposer à tous. C'est exactement la définition que donne Sartre du salaud. Il existe une saloperie du particulier qui se donne comme universel, mais qui reste au stade de la caricature. À qui se soucie véritablement de l'universel, ce particularisme-là est insupportable. D'entendre les sonates pour piano de Mozart interprétées par Glenn Gould. Revenons donc au début. Deux piliers sous-tendent la notion d'universel. D'une part, la philosophie grecque avec Socrate et d'autre part, la théologie judéo-chrétienne. Socrate est celui qui pose la vérité éternelle en rapport avec un être et non plus comme référé à une harmonie divino-cosmique. Socrate s'éloigne ainsi du paganisme. Le paganisme ne conçoit pas de rapport personnel avec le divin. Le héros tragique, par exemple, se sacrifie au profit du général. Il renonce à lui-même pour exprimer le général, qui n'est autre que la loi commune à laquelle tous se sont soumis, ou autrement dit, le destin de la tragédie grecque classique. Révolution socratique et platonicienne de considérer ainsi l'intériorité de l'être comme le siège de la vérité. C'est à cette philosophie que l'on doit le concept d'âme, qui est à la fois principe transcendant et universel, et propre à chaque être particulier. Le soin de l'âme consiste, comme le montrent Socrate et Platon, dans le dialogue continuel de l'âme avec elle-même. Au lieu de se reposer sur la tradition et l'opinion commune, l'être humain choisit de ne tenir pour vrai que ce qui résiste à cet examen. Parallèlement ou à côté du monothéisme juif, Platon conçoit l'idée d'une divinité qui est la divinité du bien pur. Le deuxième pilier de cette notion d'universalité, c'est le monothéisme juif, apparu au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le deuxième Ésaïe, le prophète de la fin de l'exil de Babylone, vers 540, qui affirme pour la première fois l'unicité et l'universalité du Dieu d'Israël, de Yahvé. Je lis au chapitre 45 du livre d'Ésaïe, les versets 5 à 7. « Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai préparé au combat sans que tu me connaisses, afin que l'on sache, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. » Le peuple juif est le premier à penser la vie dans sa totalité et de s'élever à l'idée d'un absolu qui n'a de lien avec rien d'autre. Et c'est donc sous la figure d'un Dieu unique et transcendant qu'il pense cet absolu. Le Dieu unique et transcendant est à la fois le Dieu créateur, mais aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire un Dieu avec lequel on entretient une relation de foi personnelle. L'universel apparaît alors sous un jour tout à fait différent, pas loin de ce que sera la philosophie platonicienne, et très différent de ce qu'a pu vouloir dire le paganisme sur cette question. Prenons pour illustrer la comparaison entre le sacrifice d'Agamemnon et celui d'Abraham. Agamemnon est, selon Homère, un descendant de Tantale, le fils de Zeus. Après l'enlèvement d'Hélène par Paris, Agamemnon est désigné pour mener l'expédition contre Troie. La flotte d'Agamemnon est sur le point de partir quand soudain les vents s'arrêtent. Agamemnon a en effet fortement irrité la déesse Artémis en prétendant être meilleur chasseur qu'elle. La colère de la déesse ne saurait être apaisée que par le sacrifice de la fille d'Agamemnon, Iphigénie. Agamemnon y consent et fait appeler Iphigénie sous prétexte qu'Achille voudrait l'épouser. Juste avant qu'Iphigénie soit égorgée sur l'autel, la colère d'Artémis s'apaise et elle remplace Iphigénie par une biche. La flotte peut ainsi prendre la mer. L'histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham est mieux connue. Il est raconté au chapitre 22 de la Genèse. On sait que Dieu demande à Abraham, sans véritable raison, d'aller sacrifier son unique fils, celui qu'il aime, et de l'offrir à Dieu en holocauste. Abraham obtempère et au dernier moment, Dieu lui envoie un bélier qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Abraham, d'une certaine façon, pour obéir aux ordres de Dieu, s'oppose à la loi morale, à la loi commune, à la loi générale, qui veut qu'un père prenne soin de son fils et l'aime. Cette demande de sacrifice par Dieu s'oppose aussi à la promesse initiale qui voudrait que la descendance d'Abraham devienne un grand peuple. Abraham considère qu'au-dessus du devoir éthique qui lui enjoint de respecter la vie de son enfant, il y a un devoir envers Dieu. Il sacrifie son fils, non pour un principe général, mais pour un absolu, pour Dieu. Agamemnon a lui aussi accepté de sacrifier sa fille Iphigénie, mais c'était pour sauver son peuple. S'il veut sacrifier sa fille, il la sacrifie à du bien général. Abraham renonce au bien général pour quelque chose de plus élevé, une relation à Dieu mais sans appui humain. C'est cette impossibilité de trouver un appui dans le général qui va caractériser la foi. L'universel et l'absolu de Dieu rejoignent Abraham dans sa singularité, dans sa solitude. Alors rien d'impossible à penser l'universel dans le singulier, à concevoir l'universalité non plus comme une inclusion au tout, mais comme une exception. Troisième étape, le christianisme. Je lirai ici deux versets, l'un dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3 et au verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et le second dans l'épître aux Colossiens, qui dit à peu près la même chose. Il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Ces versets de Paul font écho à la décision d'Alexandre le Grand, forçant l'équivalence dans son empire entre Macédoniens, Grecs et Perses. La thèse se résume ainsi. Contre les enseignements explicites d'Aristote, Alexandre a imposé l'idée que tous les hommes, grecs et barbares, partagent une communauté de nature. Ça, c'est l'explication politique. Dans l'Épître aux Galates, Paul traite du rapport de l'homme et de la loi. Avant la foi, dit-il, vous aviez besoin d'un surveillant, qui est la loi. Mais maintenant que vous avez reçu le baptême du Christ, vous vous dépouillez de vos identités légales pour être un homme libre en Jésus-Christ. Le contexte de l'épître aux Colossiens est sensiblement identique. Paul affirme que le croyant s'est dépouillé de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Nos anciennes identités mortifères et potentiellement conflictuelles sont transcendées pour faire de nous un homme libre en Jésus-Christ. En entendant cela, on peut raisonnablement penser que la seule singularité réside dans les yeux de celui qui unifie la multitude. L'universel consisterait alors à contempler les hommes avec un regard extérieur, un regard singulier qui n'est autre que le regard de Dieu. Cependant, je ne pense pas que Paul évoque ici la perte d'identité au profit d'un grand tout qui a pour nom Jésus-Christ. Il n'y a pas pour Paul de dépossession d'identité, mais la protestation de l'individu contre son asservissement à l'espèce, la protestation du réel contre son asservissement au rationnel. L'homme ne reçoit plus son individualité par son inscription particulière dans l'espèce humaine, mais il la reçoit en Christ. Le Christ est, pour Paul, à la fois un principe unificateur et une reconnaissance singulière. En Christ, chaque homme est unique, il reçoit une nouvelle dignité. La croyance ne peut nullement être expliquée rationnellement. C'est dans le christianisme, comme le souligne le philosophe danois Søren Kierkegaard, que la subjectivité peut se développer et trouver sa plus grande profondeur. Et pour lui, le christianisme n'est donc pas la figure principale de la raison, mais une détermination existentielle. Pour Kierkegaard, l'homme est essentiellement libre, libre de choisir pour ou contre Dieu. Mais Dieu est subjectivité absolument pure. Dieu n'a aucun rapport avec la raison et il ne peut donc exister que pour une autre subjectivité totalement pure. La foi est donc nécessairement absurde et paradoxale. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est dans la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Le philosophe Alain Badiou, dans son petit ouvrage « Saint Paul, la fondation de l'universalisme » que je recommande à tous nos auditeurs pour comprendre la force de la pensée universelle de Paul, écrit « Le projet de Paul est de montrer qu'une logique universelle du salut ne peut s'accommoder d'aucune loi, ni celle qui lie la pensée au cosmos, ni celle qui règle les effets d'une exceptionnelle élection. Il est impossible que le point de départ soit le tout, mais tout aussi impossible qu'il soit une exception au tout. Ni la totalité, ni le signe ne peuvent convenir. Il faut partir de l'événement comme tel, lequel est acosmique et illégal. Il faut soutenir donc, dans notre rapport à l'universel, que le discours chrétien n'autorise ni le Dieu de la sagesse, car Dieu a choisi les choses folles, ni le Dieu de la puissance, car Dieu a choisi les choses faibles et viles. L'événement Christ atteste que Dieu n'est pas le Dieu de l'être, n'est pas l'être. S'ouvre alors une toute autre perspective à l'universel, qui croise la singularité du sujet sans totalisation. Autre nom pour l'universel, dans une perspective judéo-chrétienne, serait l'infini. Ce qui nous permet de sortir hors de la totalité qui détruit la pluralité humaine. L'infini n'est pas le produit de la raison. C'est ce qui fait fraction dans la totalité, comme le montre Emmanuel Lévinas dans son livre « Totalité et infini ». Au terme de notre parcours dans l'universel, je vous propose une prière cosmologique. Louez le Seigneur dans le cosmos, son sanctuaire d'un rayon de 100 000 millions d'années-lumière. Louez-le par les étoiles et les espaces interstellaires. Louez-le pour les galaxies et les espaces intergalactiques. Louez-le par les atomes et les vides intra-atomiques. Louez-le avec le violon et la flûte et le saxophone. Louez-le avec les clarinettes et le cor, avec les clairons et des trombones. Louez-le avec des viols et des violoncelles, avec des pianos et des synthétiseurs. Louez-le avec le blues et le jazz, le rock et le rap, et avec des orchestres symphoniques, avec des slams et la cinquième de Beethoven, avec des guitares et des percussions. Louez-le avec des CD et des enregistrements numériques. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, toute cellule vivante. Alléluia. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.
L'homme échappe-t-il à la totalisation? C'était le thème de la méditation de Brice Desmier, pasteur de l'Église protestante unie de France. Le pasteur Desmier est aumônier national des prisons à la Fédération protestante de France. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. À la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Frédéric Changenet. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce matin, écrivez-nous au service radio de la Fédération protestante de France. Nous sommes au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez à l'écoute de France Culture. Bonne journée à tous et à chacun.